À rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est évidemment le carême. Et j'ai pensé vous présenter une émission sur la souffrance et la recherche intensive de la présence de Dieu. Se rencontre vraiment jusqu'au fond de son cœur. Comme le dit Henri Caffarel dans un de ses ouvrages, Présence à Dieu, à la page 207, il dit « Pour trouver Dieu, il faut nous rendre là où Dieu nous attend. » Car Dieu nous attend partout. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, que son amour est partout. Je pense à Bernadette Soubirous, dont je vous ai parlé quelquefois. Sainte Bernadette Soubirous, qui a eu ses apparitions à Lourdes, dans le sud de la France, au siècle dernier. Puis à la grotte de Lourdes, elle est extasiée de bonheur en entendant des paroles de la Vierge. Extasiée de bonheur en entendant de telles paroles, c'est surprenant. Écoutez bien, elle dit, « La Vierge, je ne promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Au fond, déjà la certitude du bonheur que nous aurons avec Dieu nous invite à être déjà heureux avec lui ici-bas dans n'importe quelle circonstance, ce qui est extrêmement difficile pour beaucoup, mais ce qui est possible quand même. En 1935, le cardinal Pacelli, qui est devenu Pie XII, était allé à Lourdes. Et il a fait un éloge de Sainte Bernadette. Il avait dit « Elle a traversé un chemin semé de toutes les peines, de toutes les douleurs du corps, de l'esprit et du cœur. » Mais pourtant, elle est extraordinaire. Il y a un événement dans sa vie qui nous rapporte ça. Parce que les 7 années de sa vie au couvent de Nevers, elle était entrée à Nevers, furent, on peut dire, c'est cette année, une longue série de tourments physiques et d'angoisses spirituelles. Elle disait, une parole étrange, « Être malade est mon emploi principal. » Un jour, une sœur religieuse qui dit à Bernadette, malade, à l'infirmerie, « L'eau de la grotte, ma sœur, guérit les malades. » Et alors Bernadette, bien innocemment, sans doute avec un petit sourire moqueur, lui dit « Oui, on me l'a dit. » La conversation se poursuit « Pourquoi ne vous guérit-elle pas ?» Et elle répond « Bah, la Sainte Vierge veut peut-être que je souffre. »« Veut peut-être que je souffre. » C'est une parole difficile à accepter et j'hésite beaucoup à comprendre ça. Parce que comment la Sainte Vierge pourrait-elle vouloir que sa petite Bernadette souffre? Mais elle dit bien « peut-être, peut-être ». Et la conversation se poursuit « mais pourquoi voudrait-elle que vous souffriez ?» Et là, elle dit quelque chose qui est très intelligent, mais c'est que j'en ai besoin. Comment a-t-on besoin de souffrir? C'est que la souffrance nous purifie, vous verrez tout à l'heure. Puis elle dit « Pourquoi en avez-vous besoin ?» Et là, elle a la réponse magnifique, « Ah ça, le bon Dieu le sait, lui seul. » C'est donc dans l'abandon qu'on peut trouver des solutions. Et lorsque nous sommes frappés par la maladie, par une déception cruelle aussi, par une perte d'argent ou de propriété, un incendie qui brûle tous nos biens, ou la perte d'amis qui nous sont très chers, nous sommes tentés de nous écrier, tout le monde dit ça, hein? « Qu'ai-je donc fait au bon Dieu ?» Comme si c'est Dieu qui faisait ça. Et lorsque le mal triomphe et que le succès semble si souvent plutôt pencher du côté des gens qui sont méchants, et les gens sans scrupules, on met en question la justice divine. Et certains d'entre nous vont jusqu'à dire, « Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu quelque part, si Dieu est bon ?» Pourquoi est-ce qu'il tolère un tel état de choses dans le monde? Quelle est l'idée? Pourquoi permet-il le mal et la souffrance? Or, ce que nous savons, c'est que Dieu est le bien suprême. Saint Jean le dit bien, Dieu est amour. C'est fondamental dans notre foi, ça, Dieu est amour. Or, si de quelque manière que ce soit, Dieu à nos yeux, permet l'existence du mal dans sa création, c'est qu'il a la sagesse et la puissance infinie de tirer le bien du mal. En somme, s'il y a souffrance sur la terre, il ne faut pas oublier que la douleur, oui, la douleur est aussi un avertissement. Un avertissement, heureusement, qui nous est donné pour la préservation de notre santé même. Tout à coup, on sent de douleur, on se précipite chez le médecin, ou on prend un médicament, ou on prend une tisane qui nous convient, ou on fait attention à la nourriture qu'on a mangée, etc. Il y a un avertissement, et la souffrance nous est donc utile, et on pourrait dire une condition nécessaire de la vie sur ce plan-là. Et nous prenons la maladie pour un mal. Pourquoi? Peut-être que c'est parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu, selon lequel chaque partie de son œuvre mène à la perfection de la création, comme le dit si bien Teilhard de Chardin et surtout saint Paul. La perfection, en fait, c'est de s'abandonner à l'amour de Dieu et à sa douce présence. Un jour, nous allons saisir le sens caché de la peine et de la douleur. Car la souffrance n'est pas une malédiction. Ceux qui disent que le verglas est une malédiction de Dieu et que les aventures du Saguenay, c'est une malédiction de Dieu, sont dans l'erreur, à mon avis. Loin d'être un signe de colère ou de haine, les épreuves, en fait, peuvent être considérées si on a le sens de la douce présence de Dieu au fond de nous et partout, mais ce sont des bénédictions, si on veut bien les prendre dans ce sens-là. Des bénédictions afin de sauvegarder notre vrai bonheur, qui est la découverte justement de cette douce présence de Dieu. La souffrance devient bonne pour nous du moment que nous apprenons à en profiter. Remarquez bien cependant que la bonne souffrance ne suffit pas que la souffrance est une bonne chose en soi, jamais de la vie. Au contraire, elle demeure un mal. Demandez aux sœurs hospitalières, demandez aux médecins chrétiens et aux infirmières chrétiennes, demandez à tous ceux qui nous soignent. Ça demeure un mal, ils s'y acharnent pour l'enlever. Il faut nous efforcer de libérer le monde de la souffrance. De voir des pauvres, il faut les consoler, les adopter, les aider. Il s'agit plutôt du bon esprit avec lequel nous acceptons la souffrance, car Dieu est toujours là, présent. Il est toujours présent parmi nous. Il est toujours prêt à nous consoler. Il y a du mal dans le monde parce que l'homme aussi manque de faire bon usage de son libre arbitre, de sa liberté, c'est-à-dire de sa puissance de choisir entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'il y a tant de mal, surtout. Bien souvent, nous sommes la cause de notre propre malheur, et Dieu n'est aucunement l'auteur de ce mal, comme il est l'auteur d'aucun mal. Il n'y a que l'homme et l'ange rebelle qui puisse commettre le péché, et Dieu a créé l'homme intelligent et libre, capable d'initiative et responsable de ses propres actions. Or, Dieu respecte notre volonté libre. Il se refuse de nous traiter comme si nous étions des automates, des robots. La liberté est la marque de noblesse, de la nature, de l'homme et de la femme. Sans elle, sans cette liberté, nous ne serions pas des hommes. Nous ne serions pas des femmes, mais nous serions des êtres inférieurs, incapables de pratiquer la vertu, et surtout d'aimer vraiment. Dieu est même prêt à voir tomber, je suis sûr, en ruine son plan divin, plutôt que de violer le contrat de notre liberté. Et bien souvent, Dieu permet à n'importe qui de réussir dans le monde. Et ici-bas, le saint, tout comme le pécheur, doit porter le joug de la souffrance. L'innocent et le coupable se trouve également atteint, et pour telle personne, c'est comme un remède, et pour une autre, ça peut être même un tonique. Oui, nous sommes au fond comme des enfants malades, qui sont visités par un médecin habile et bienveillant, car Dieu est toute douceur et toute guérison. Il guérit nos cœurs, nos âmes. Dieu est toujours ce divin consolateur et sa présence doit nous envahir d'une joie à nulle autre pareille. Puis la souffrance, c'est aussi un antidote contre l'esprit de luxe, esprit de plaisir, qui éloigne tant de monde de leurs devoirs et de leur bonheur. Nos peines, si souvent comme ça, ça nous aide à mener une vie meilleure. Dieu prend soin, au fond, d'empêcher notre liberté de s'égarer. Alors là, nous sommes en sueur, nos yeux pleurent, nos cœurs, on a l'impression qu'ils saignent. C'est le prix du dépouillement qui permet d'aller à l'essentiel. Et en somme, de s'éveiller, comme disent les bouddhistes, de s'éveiller à la présence de Dieu. Un philosophe païen disait avec beaucoup de bon sens, j'aime bien cette parole, « C'est en vain que nous regimbons contre la douleur, parce qu'ainsi nous la sentons davantage. » Comme si nous faisons tout pour l'éviter, ça arrive souvent, on fait tout pour éviter la souffrance. Et pourtant, l'affliction, on le sait, c'est inévitable. Toujours et partout, nous rencontrons, disons, la croix. Et si nous la portons volontiers, bien, elle-même, elle peut nous porter. Ben oui, si nous la refusons, elle nous écrasera. C'est curieux, mais c'est comme ça dans la vie intérieure et la vie spirituelle. La croix nous porte. Nous ne voulons pas souffrir parce que nous ne savons pas souffrir. Il y en a peu qui savent envisager la douleur à la lumière de la religion, mais qui souffrent sans se plaindre ou se révolter, parce que très peu ont appris à bien souffrir au pied de Jésus, quoi, qui est notre maître, qui est le grand souffrant dont parle si bien le prophète Isaïe, et sa très sainte passion que nous nous préparons à célébrer, car nous commençons le carême. Un homme qui avait passé plusieurs mois à l'hôpital pour subir une série d'opérations a avoué sincèrement, j'y ai appris une grande leçon. Pour rien au monde, donc, j'aurais voulu manquer ça. Après tout, ça s'apprend, la souffrance, et quand on la sait par cœur, elle n'effraie plus. Il disait, nous n'avons qu'à l'accueillir. À l'accueillir. Oui, oui, j'ose le dire. Accueillir la souffrance tout en cherchant à s'en libérer par les médicaments, les soins, l'aide des médecins, des infirmières, des sœurs hospitalières, il y en a encore, heureusement. Faisons face à la douleur, me semble, avec intrépidité, sans pleurnicher, ni nous apitoyer sur nous-mêmes, ni en rechercher outre mesure les adoucissements. Faut pas être, comme on dit, vulgairement poule mouillée. Non, un chrétien, ça se tient debout même quand il est alité. La souffrance est une sorte de chirurgie profonde. Elle opère quoi? Une espèce de grande révolution dans notre façon d'agir. Elle termine une crise dans notre développement moral, souvent. Hein? La souffrance, elle peut nous faire grandir, surtout au spirituel. Elle élargit notre vue sur la vie, sur le monde et sur notre destinée. Pensons-y lucidement, là. Nous sommes presque toujours en état de fuir devant nous-mêmes. Or, malgré nous, la maladie nous confronte avec nous-mêmes. Ben oui, bien des gens ont fait le tour du monde et sont morts avant d'avoir fait le tour de ce monde étrange et merveilleux qui est au-dedans d'eux-mêmes. Après un voyage autour de ce monde intérieur, ils auraient quelques âmes. J'admire l'ordre de la providence de Dieu qui ne veut pas nous permettre de nous acclimater sur la terre. Oui, on ne doit pas s'acclimater sur la terre et toujours aspirer au fond de notre cœur, au ciel, à cette vie en Dieu, totale. Il y a la parole aussi de Louis Veuillot dont je vous ai aussi parlé. Je vous ai parlé de Frédéric Ozanam deux fois, de Louis Veuillot une fois. L'homme est né pour être mal partout, afin d'avoir envie d'aller ailleurs. J'aime bien cette parole. C'est plein d'humour. Ainsi, la chambre du malade peut devenir l'antichambre de Dieu, hein, et faire naître ce beau cri que l'on connaît, hein, je veux voir Dieu. Oui, je veux voir Dieu. Vous savez, il y a, oui, des avantages à la maladie. Un des grands avantages d'être malade, c'est les malades qui le disent, c'est que pour la première fois, peut-être, Dans notre vie, nous sommes obligés de nous soumettre à la direction des autres. Et nous sommes tellement habitués à mener nos propres petites affaires, à être indépendants, que ce sera peut-être un grand bien pour nous d'obéir en tout aux ordres des médecins puis des gardes-malades et de s'abandonner intelligemment. Toujours avec le désir intérieur de garder le soin de se vouloir en bonne santé. Car Dieu nous veut en bonne santé. Nous sommes à leur merci, les médecins et les gardes-malades. On dépend d'eux pour toutes choses à ce moment-là, et nous gisons dans notre lit à la journée, quoi. Nous sommes désœuvrés, en repos forcé, quoi. Nous avons l'impression de gaspiller un temps précieux. Et on n'y peut rien. Si ce n'est de rester comme ça, on doit se contenter du désir seulement dans l'espoir que Dieu va veiller à nos affaires. Et alors souffrir devient, comme dit Bernadette Soubirous, notre emploi principal. Alors notre attitude doit être alors celle d'un enfant qui s'abandonne aux autorités, puis aux circonstances et surtout à l'amour de Dieu et à sa présence. Quand on y pense bien, la maladie nous apprend des tas de choses, à accepter les désagréments de notre traitement, à endurer ceux qui nous soignent, puis surtout les visiteurs qui restent trop longtemps. Ça, c'est dur. Puis il faut endurer la diète aussi, c'est souvent pas très intéressant ce qu'on nous fait manger, puis l'insomnie, les bruits la nuit, l'état d'ennui aussi, puis la douleur elle-même, puis il y a en plus les malentendus de la part des parents et des amis. Comme ils sont bien portants, eux, puis en état de santé florissante, ils ont souvent de grandes difficultés à sympathiser avec nous. Sauf les vrais chrétiens, je crois, et certains qui ont le cœur à la bonne place. Parce que les autres, il leur manque quoi? Il leur manque la science expérimentale, peut-être, de la maladie, et peut-être aussi leur manque-t-il cette véritable intuition de la charité. Ils comprennent pas? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est présent et présent dans toute sa tendresse. Ils l'ignorent. Et le malade, qui se sent étouffé entre les quatre murs de sa chambre, qui s'est devenu comme un cachot, une prison, ou qui se sent frustré par la présence d'autres malades aussi dans la même chambre, c'est pas facile ça, mais il souffre d'un isolement qui est le plus souvent son pire supplice, et cette sorte d'emprisonnement pèse doublement à l'homme et à la femme moderne, pour qui les automobiles sont devenus les plus grands éléments de stabilité, si on peut dire. Il doit rester sur place et ne plus bouger, il est confiné. Alors aux malades, la nuit apporte aussi l'accablement. Hein. Il y a le rythme des piétinements sourds, puis des bruits nocturnés. Vous connaissez ça, vous avez déjà été hospitalisé, je l'ai été. Alors, puis il y a la monotonie des heures lentes, dont on compte une à une les minutes. On est comme léthargique, il y a danger alors que le cœur et l'âme s'engourdissent dans la nuit du désespoir. Et c'est pourquoi il faut entourer les malades d'une atmosphère, il me semble, de sérénité, de sorte que leur chance de guérir soit merveilleusement augmentée. Même le rire peut être, il me semble, un contrepoison de la maladie. Tout comme, pensez au proverbe, ça peut être la sauvegarde de la santé, hein, il y a les proverbes, malade qui rit, malade qui guérit, et qui chante son mal en chante. Des vieux proverbes, ça. Le malade, isolé et immobile sur son lit de douleur, cherche à se fuir, puis il se prête facilement au calmant de l'anesthésie, puis hélas, ces calmants n'ont jamais guéri personne, mais ça aide. Leur effet est dissipé quand même, le mal reste tout entier, le mal est là. C'est bien faire, cependant, que de donner des sédatifs et des palliatifs aux malades, surtout aux incurables. La souffrance en soi n'a jamais sauvé qui que ce soit. C'est l'amour qui sauve. C'est sûr. C'est même un devoir de charité d'agir en soulageant la souffrance au moment opportun, afin d'atténuer leur douleur à ces malades, d'apaiser leur esprit. Mieux vaut par-dessus tout le baume des sacrements, de l'Eucharistie, de la pénitence, et la parole réconfortante aux besoins d'un prêtre, ou de quelqu'un qui a une foi vivante. Pensez à la parole de Saint Jacques, dont on lit l'épître actuellement dans les églises. C'est si beau. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» dit Saint Jacques. « Eh bien, qu'il appelle les prêtres de l'église et que ceux-ci prient sur lui. » En versant de l'huile au nom du Seigneur, cette prière faite avec foi sauvera la malade. Et le Seigneur le rétablira. Et s'il a commis des péchés, bien lui seront pardonnés. C'est dans Saint Jacques, chapitre 5, versets 14 et 16. Si le mal se fait insistant puis dure toujours, il faut s'habituer à souffrir et accepter, c'est pas renoncer à la lutte, hein. Nous devons lutter. Celle-ci commence avec chaque réveil jusqu'au sommeil du soir. C'est long. Faut pas s'enliser dans des regrets, ni dans l'inaction. Le malade doit être un vivant intérieur. Sachant que Dieu n'aime pas la souffrance, mais il aime l'amour. Il aime aimer d'un amour fou chacun d'entre nous. Alors il n'y a pas de chagrin, de peine plus cruelle que de ne plus pouvoir utiliser ses talents naturels, c'est sûr, mais il faut quand même savoir tirer parti de cet état. Et si la maladie nous arrache nos forces habituelles, ben, il faut en forger d'autres. Il faut découvrir des aptitudes latentes et insoupçonnées. S'adonner à des poursuites intérieures, là, qui sont adaptées à notre condition. J'avais enseigné à ma mère, qui avait une excellente mémoire, à se souvenir du nom de tous les employés qui rentraient dans sa chambre, et de les appeler par leur nom, et d'apprendre le nom des enfants d'une Portugaise qui venait passer la vadrouille dans sa chambre. Et la Portugaise était tellement contente, ah, d'être reconnue par son nom, reconnue par ses enfants. Ah, quelle joie ma mère lui donnait. Pour transmuer notre faiblesse physique en force spirituelle, hein. Comme Marthe Robin, comme Annette Desautels, dont je vous ai parlé, hein, qui ont su accueillir la présence de Dieu. Nous pouvons faire davantage pour les âmes sur un lit de douleur. En priant et en nous associant au corps mystique. Parce que même pour les malades, leur maladie ne peut les isoler du monde entier. Car quand nous sommes malades, mais nous sommes dans la solidarité du corps mystique du Christ. Il faut voir au fond ce grand corps mystique, le visualiser intérieurement, fermer les yeux, demander à Dieu de nous aider. Dieu ne s'étonne pas lorsque nous versons des larmes. Disons-le bien, le Christ, il a pleuré. Nous pouvons y lire nos larmes aussi à celles de la très sainte Vierge. Bien oui, parce que la très sainte Vierge, Notre-Dame des douleurs, et le Christ qui a subi la passion sur la terre. Ils ont manifesté un amour de prédilection pour les malades. Le Christ a affirmé que d'une certaine façon, les malades sont partie intégrante de son moi. Il le dit dans Matthieu 25, « J'étais malade et vous m'avez visité. » Je répète, « J'étais malade et vous m'avez visité. » Bien souvent, en ce monde, la grâce triomphe parce que nos frères, les malades, prient. Ils prient pour que les hommes s'éveillent. S'éveillent, oui, à l'amour de la présence de Dieu en eux. C'est là qu'est le secret de toute notre vie. Les âmes souffrantes sont comme des troupes de choc de la libération, la vraie libération. Elles ont une dignité éminente. Elles sont les membres du corps souffrant et triomphant. Ah, leur confiance et leur amour ont un pouvoir irrésistible, je dirais, sur le cœur tout aimant de Dieu. Dieu si plein d'amour. Ô Mère clémente et miséricordieuse, Marie, dont l'âme a été transpercée par le glaive de la douleur, nous voici. Nous tous, nous sommes tous malades, et nous sommes auprès de vous. Appelez à la grâce sublime de l'amour, au profit de son corps qui est l'Église. Nous vous consacrons nos cœurs, afin que vous les déposiez sur l'autel de votre divin Fils. Nous sommes de humbles hosties. pour notre vie spirituelle et celle de nos frères et sœurs, oui, nous nous offrons pour ça. Accueillez, ô mère de douleur, notre consécration et consolidez dans nos cœurs la grande espérance en la présence de Dieu. Qu'après avoir tant souffert, nous puissions avoir part à la joie dès cette vie présente et dans la vie éternelle, ainsi soit-il. Ô mon Dieu, tu es en moi et je suis en toi, et nous sommes inséparables. Ô joie, joie, joie. Ô joie dans ma douleur, ô joie dans ma souffrance. Je suis sûr, mon Dieu, de ton amour.